Bonjour tout le monde, re-bienvenue à un épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a eu la chance de recevoir Dr. Chargui, qui est une pathologiste qui travaille présentement dans le réseau McGill, mais qui a fait ses années de médecine avant à l'UDM.
Oui, puis ça a vraiment été une belle discussion, encore une fois. Là. Elle était super gentille. Elle a répondu à comme beaucoup de questions qu'on avait par rapport à la pathologie, qui est un domaine un peu méconnu en médecine. J'ai l'impression que c'est comme un monde à part que la plupart des médecins ne connaissent pas vraiment. Puis ouais, dans le fond, c'était vraiment le fun de l'entendre sur sa profession qui est comme... Il y a beaucoup de curiosité puis d'attention aux détails. Puis elle a vraiment aussi une belle flexibilité d'horaire puis un bon mode de vie dans cette spécialité-là. Mmh. Donc,
je pense vraiment que c'est un domaine à aller découvrir.
Ouais, intéressant. Tu vois,
Bon épisode. Donc, avant de commencer l'épisode, j'aimerais ça remercier notre commanditaire officiel, Archer. Archer, c'est une firme de finance qui se démarque vraiment par sa simplicité, sa rapidité d'exécution et son expertise.
Oui, puis c'est une firme qui est spécialisée en médecin. Donc, n'hésitez pas à les contacter là, si vous avez des questions par rapport aux bourses, à la marge de crédit, à des assurances invalidité ou à des options de placement.
Oui, puis en plus, les rendez-vous sont gratuits. Donc, on met le lien en dessous du vidéo. Pour vrai, vous ne perdez rien à aller les rencontrer. Ça vaut la peine.
Docteur Chargui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci de m'avoir invitée.
Donc, nous, on aime ça commencer par en revenant un peu dans le temps. Donc, vous, quand vous étiez jeune, secondaire ou primaire même, est-ce que vous saviez que vous étiez intéressée par la médecine?
J'étais pas mal toujours enlignée vers la médecine, à part comme tôt, là, où je voulais être dessinatrice pour Disney, mais, mais rapidement, au secondaire, début secondaire, je savais que je voulais faire de la médecine. Je savais que je voulais... un travail où je pouvais aider les gens. Et j'ai toujours eu ce côté curiosité intellectuelle et j'aimais beaucoup la bio, le corps humain. Alors, ça a été juste comme naturel de m'enligner vers la médecine.
Puis est-ce que vous êtes allée directement en sortant du cégep?
Non. En fait, mes notes n'étaient pas assez hautes. Alors, j'ai fait un bac en sciences biomédicales pour ensuite appliquer en médecine, ce qui est comme la meilleure chose, parce que j'ai rencontré mon mari dans mon bac.
Ah ouais? À quelle université?
À l'Université de Montréal.
OK. Ouais. Puis ensuite, vous êtes allée en médecine à quelle
À l'Université de Montréal aussi.
OK.
Ça, c'est juste après à la résidence où j'ai bougé vers McGill.
OK.
Puis une fois rendue en médecine, est-ce que vous saviez déjà que vous vouliez aller en pathologie en rentrant?
Non. En fait, initialement, je voulais faire pédiatre.
OK.
Mais j'ai fait mon stage en pédiatrie, puis j'ai réalisé que c'est pas tout à fait ce que je pensais, peut-être parce que j'ai fait mon stage à Sainte-Justine, et c'est un centre hyper spécialisé. Alors, ça n'a peut-être pas donné la vraie couleur de ce qu'est la pédiatrie, et j'ai vu des cas comme très lourds. Alors, ça m'a fait un peu peur. Alors là, je me suis dit, bon, je vais explorer d'autres options, puis j'ai fait plein d'autres petits stages. La patho, en fait, moi, j'ai un biais parce que ma mère est pathologiste. mais en rentrant en médecine, j'étais comme, je vais pas être comme ma mère. J'ai essayé de tout explorer à part la patho. Mm. Ensuite, je me suis dit, bon, on va essayer un stage en patho, puis on va voir. Puis finalement, mon stage était vraiment bien. Mais, tu sais, souvent, les gens vont en médecine puisqu'on veut aider les gens à avoir un contact direct avec les gens. Mais j'ai beaucoup réfléchi lorsque j'ai dû appliquer pour la résidence. Il faut faire comme self-reflection, genre vraiment penser à ce qu'on veut faire à long terme, qui on est vraiment et ce qui va marcher à long terme. Et me connaissant, je suis quelqu'un de très comme émotive, je prends tout à cœur et j'ai longtemps pensé à médecine familiale, mais je me suis dit, à long terme, je pense que je vais trop prendre à cœur l'histoire des patients puis me mettre à 300%
tout le temps.
Alors, je me suis dit, peut-être à long terme, c'est mieux que je me protège de ça, que j'aide quand même les gens, mais je me mette un peu en rétrospect, derrière le rideau. Puis il y a aussi le côté très... il y a un côté très... un peu geek. des pathologistes,
ouais.
Parce que comme en médecine, on veut tout savoir tout le temps, mais particulièrement les pathologistes, on est très très geek. Puis on veut toujours savoir, ah, mais pourquoi?
Après, sur le petit détail.
Puis elle, c'est ça, très méticuleux, un peu obsessif-compulsif, ce qui est un peu ma personnalité. Ça me fait penser à mon fils qui a 3 ans, puis il est dans sa phase de pourquoi? C'est vraiment ça, mon travail. Alors, c'est ça qui m'a attirée vers la patho.
Puis c'était comment la résidence en pathologie?
C'est différent d'autres résidences, j'imagine, mais la première année, c'est une année clinique. Alors, on fait beaucoup de cliniques, puisqu'il faut avoir une base solide en connaissances cliniques. Puis le reste, c'est vraiment voir des cas, autant de cas possibles, des collections. Donc, on n'est peut-être pas autant affronté au stress que des résidents en médecine interne, disons. Mais c'est surtout en voir, puis habituer l'œil à reconnaître des patrons.
Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de cours théoriques aussi dans la résidence? Que j'ai l'impression que c'est des connaissances qu'on n'a pas tellement développées. Tu sais, on a la base en médecine. Mais...
c'est ça. On n'est pas, en fait, préparé... On n'est pas exposé à la patho dans notre curriculum de médecine en général. Alors, personne... Moi, parce que j'ai un biais, puisque ma mère est pathologiste, je me suis dit, ah, peut-être, mais sinon, personne n'y pense. Mais non, il n'y a pas de cours... vraiment de cours théoriques en tant que tel universitaire. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a comme des cours avec nos patrons, mais c'est vraiment en voir. Sinon, on peut lire autant qu'on veut dans les livres, mais c'est jusqu'à temps qu'on voit un vrai cas qu'on a pu appliquer réellement, on apprendra.
Associer, c'est ça, un vrai cas à la théorie, mettons, ça aide tellement à retenir.
Exactement.
Puis il y a beaucoup de résidences qu'on se fait dire que c'est pas mal un moment qui est difficile dans la vie des étudiants, dans le sens que c'est vraiment chargé, c'est des longues heures. Est-ce que vous diriez qu'en pathologie, il y a un meilleur balancement vie-travail en résidence ou c'est comme les autres?
Bien, je pense que c'est différent dans la résidence et je pense en tant que patron aussi. C'est sûr qu'il y a plus de flexibilité, disons, parce que c'est pas une clinique de telle heure à telle heure, disons. Puis c'est pas le stress d'adrénaline aigu d'un code. Mais c'est du volume, dans le fond. Donc, ça dépend du volume qu'on a. S'il faut rester 13 heures par jour, ben, il faut rester 13 heures par jour pour finir le volume. Mais disons qu'il y a une flexibilité si je dois rentrer un peu plus tard parce que mon fils a un rendez-vous, par exemple. Ben, je peux, mais je quitte un peu plus tard. Donc,
c'est ça.
Puis la résidence, elle reflète la même chose.
Puis, c'était comment vous avez dit que c'est beaucoup en voir pour en apprendre sur le tas. Fait que là, quand vous faites la résidence, vous devenez pathologiste. J'ai l'impression qu'en résidence, vous devez être plus surveillé un peu. Il y a quelqu'un qui regarde un deuxième œil votre travail. Mais c'est comment, une fois que vous devenez pathologiste, la transition doit quand même être stressante.
C'est un peu intense, oui. Parce que contrairement aux résidents plus cliniques qui font les gardes, qui sont, eux, la première ligne sur les étages, c'est sûr que... Un résident en patho, il y a toujours un filet un peu de sécurité. Il y a le patron qui passe derrière. Parce qu'on a une quantité limitée de tissu, on ne peut pas donner comme toute la liberté au résident. La première année a été un peu d'être patron était un peu intense, mais c'est l'année où on apprend le plus en même temps parce que c'est les choses vraiment pratiques, c'est plus la théorie. Alors, là, qu'est-ce que je fais avec le tissu limité que j'ai? Il faut être pratique. Comme j'ai dit, il y a la curiosité intellectuelle, puis on veut toujours savoir pourquoi, mais pratiquement, est-ce que je me bats avec cette question, oui ou non? Est-ce que ça va changer quelque chose à la prise en charge du patient, oui ou non?
Il y a quand même un gros impact à vos décisions, tout le traitement.
C'est ça. Ouais. Et comme j'ai dit plus tôt, il n'y a pas le stress aigu d'un code ou d'être à l'urgence, mais il y a le stress de, OK, ce que moi je dis, là, noir sur blanc... Ça va comme ils vont peut-être enlever sa vessie, tu sais, ou donner de la chimio ou quelque chose. Alors, il faut vraiment y penser.
Genre en patho que les autres, j'ai l'impression que quand on reçoit un médecin reçoit un résultat de patho, ils prennent ça comme pour du cash, là, on peut dire que c'est comme vu que c'est souvent le gold standard.
Le dernier mot.
Ouais, c'est ça. C'est comme la meilleure méthode de diagnostic.
C'est ça. Donc c'est une lourde charge, mais super gratifiante qu'on peut faire une différence. Et il faut savoir nos limites. Et c'est ça qu'on apprend durant la résidence. Et c'est ça qui est évalué lors de l'examen du Collège Royal aussi. Oui, il y a une compétence de base, là. Il faut avoir des connaissances, mais aussi, est-ce qu'on est sécuritaire? est-ce qu'on connaît nos limites? Est-ce qu'on va aller demander à un collègue lorsqu'on on atteint nos limites, oui ou non? Mais c'est ça, moi, ça fait 5 ans maintenant que je travaille, puis j'hésite toujours pas à montrer comme... Moi, ma sur-spécialité, c'est la pathologie de la peau. Je suis dermatopathologiste. Donc, toutes les lésions mélanocytaires, est-ce que c'est un mélanome, oui ou non? Alors, dès que c'est un peu borderline, j'hésite pas à montrer, parce que il y a un bout du patient qui va partir si je dis que c'est un mélanome.
Ouais, ça va mieux deux paires de yeux que juste une.
C'est ça. Et j'ai un patron qui nous disait toujours, on fait jamais un diagnostic de cancer après 5 heures. Si tu hésites, laisse-le à demain.
Il revient.
Trop fatigué. On a du café, on a une bonne nuit de sommeil. Après, on le regarde à tête reposée.
Puis est-ce que c'est ça, toutes les pathologistes doivent se sous-spécialiser dans un organe en particulier? Ou
non. En fait, parce que je travaille dans un centre tertiaire, un centre universitaire, il faut être sur-spécialisé, mais les pathologistes en général, si on travaille dans un hôpital plus périphérique, on fait de tout. Tous les organes, autopsie, tout.
Est-ce que ça arrive que des gens qui travaillent dans un centre périphérique, vous les envoient dans le centre tertiaire pour que vous regardez,
oui,
par exemple, un
définitivement
morceau plus spécialisé? Ouais.
C'est ça. En plus, les mélanomes, peut-être mélanomes, les gens sont très anxieux quand ils ont ça. Alors, on reçoit beaucoup de consultations de l'extérieur aussi.
Sous forme de photos, ça, souvent?
Non, ils nous envoient les lames, le matériel,
ouais,
les spécimens.
Ça prend combien de temps, juste par curiosité, là, tout ça?
Ça dépend des cas, mais d'habitude, en dedans de quelques jours, on devrait avoir un résultat, surtout si c'est quelque chose d'urgent, là, parce que les cliniciens attendent des réponses pour, la prise en charge des patients.
Puis dans votre choix de sous-spécialité, on dirait que je suis comme curieuse de comment vous choisissez ça, tu sais, c'est que vous aimez les pathologies ou que vous aimez, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup le côté... La beauté des images, en fait.
Oui, c'est vrai. C'est un peu bizarre parce que c'est comme une joke quotidienne, presque. Parce que nous, on regarde ça, on fait comme « Ouh, mais c'est un cancer vraiment méchant, tu sais. »
Ah ouais.
On fait comme « Ouh, c'est vraiment beau pour nous, mais c'est vraiment mauvais pour le patient. » mais oui, c'est vraiment comme la fascination devant le côté cellulaire, comment ça envahit ou comment ça évolue. C'est ça qui m'a intriguée aussi. Puis je suis quelqu'un de très visuel. J'avais un côté artistique avant ma médecine que je retrouve un peu dans la pathologie. Mais la question, c'était plus pour la patho ou la dermato?
Plus la dermato, mettons.
Dermato-patho, c'était en cours de route. C'était pas mon plan. Mais la dermato m'a toujours intéressée aussi. Moi, en rentrant en patho, je me suis dit, OK, je suis tannée d'étudier, je veux juste finir. Alors, je me suis dit, je vais être pathologiste générale. Et puis, ça m'intéressait d'aller faire comme du dépannage en région, parce qu'on manque de pathologistes au Québec. Alors, je me suis dit, ah, ben, je vais aller à Val-d'Or, je vais aller à Rivière-du-Loup, je vais aller faire ici et là. Ça m'intéresse de rester plus large et de finir d'étudier plus tôt. Alors, je vais faire ça. Alors, j'ai commencé à faire des stages dans des hôpitaux un peu plus périphériques. Et tout le monde m'avait dit, ah, dermatopathe, comme si tu as un intérêt, si tu deviens bonne en dermatopathe, tout le monde va vouloir t'engager parce qu'on n'est vraiment pas bon en dermatopathe au Québec.
Ah ouais?
Et ça m'a toujours intéressé la dermato. Alors, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Alors là, j'ai commencé à regarder. Puis une fois que, à McGill, puisque je travaille à McGill, on a vu que, oh, mais elle a un intérêt en dermatopathe. Mon mentor s'approchait de la retraite. Ils se sont dit, oh, elle est intéressée en dermatopathe, on va la guider vers ce choix-là. Puis ça les éloigne, les étoiles se sont alignées, puis... Je suis en dermatopathe, puis je suis super contente.
C'était un fellowship, dans le fond, de 1 an, ça?
Oui,
ouais.
Okay. C'est ça. C'est vraiment parce qu'il y avait un besoin spécifique au CUSUM, alors j'ai vraiment répondu à ça. Puis il y avait aussi l'aspect, ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, j'avais fait mes stages en périphérie un peu, où les gens m'avaient dit qu'il y avait un manque en connaissances dermatopathologiques au Québec. Mais aussi, durant un de mes stages, avec un de mes patrons qui fait du sein, en fait, il m'avait, comme mon évaluation de fin de rotation, de stage, il m'a dit, il me demandait c'est quoi mes plans et tout. Puis je lui ai dit, je vais faire un patho général, je vais en périphérie, puis il me dit, t'es sûre parce que t'aimes enseigner, t'es sûre que tu veux pas rester dans un centre universitaire, puis sur le coup, j'ai fait comme, ben non. Puis j'ai réfléchi après, j'étais comme, ouais, c'est vrai que j'aime enseigner. Alors, c'est ça qui a mis tout en perspective, puis qui m'a mené où je suis.
C'est que vous avez cette composante-là en ce moment aussi dans votre emploi, que vous enseignez aux étudiants.
Aux résidents, non seulement de pathologie, mais de dermatologie, puisqu'ils doivent avoir des connaissances en patho, et les étudiants en médecine de temps en temps.
Puis, dans le fond, c'est quoi la composante que... T'sais, vous êtes dans le labo toute la... Comment quoi ça ressemble votre semaine en général?
Donc, oui, on est souvent un peu en retrait de l'hôpital. donc, c'est un peu différent dans un centre universitaire que dans un centre plus périphérique, puisqu'on est un gros centre où il y a beaucoup de volume. Moi, je regarde principalement les lames. Je suis assise à mon microscope principalement, puis cas par cas, corrélation clinique, j'ai mon ordinateur. Mais il y a une composante pour les pathologistes plus généraux. Il y a aussi la macroscopie, qui est la dissection de l'organe, puisque non seulement il faut regarder la pathologie sous le microscope, mais il y a aussi l'organe.
Vous le recevez.
À l'œil, on le reçoit en entier. Ouais. Alors, une partie de l'examen, c'est l'examen macroscopique, qui est très important, puisque de l'examen macroscopique, il faut sélectionner les bons morceaux pour nous donner la bonne information sous le microscope. Donc, il y a cette composante, la microscopie. Et aussi, on n'est pas isolé, comme on ne peut pas faire un diagnostic tout seul. Je suis toujours en communication avec les cliniciens. Il y a les comités des tumeurs, qu'on appelle, les rencontres où on discute avec les cliniciens, les radiologues, pour discuter des cas plus difficiles, que ce soit des cancers ou plus médical. Donc, communication constante. Et l'enseignement, ça prend une bonne partie de mon temps aussi. C'est principalement ma journée, ma semaine.
Vous avez dit qu'il y avait un gros manque en pathologiste au Québec. On a vu une statistique.
Oui, ben c'est ça. J'avais quand même été surprise par ça. Il y a comme, je pense, 250 au Québec. Versus, il y a comme 650 radiologistes. Ouais. Dans ma tête, c'est pas la même chose. Mais les deux, c'est comme de recevoir des images photos ou des images comme de tissu puis de faire un diagnostic.
C'est des spécialités diagnostiques.
Mais finalement, cette grosse différence-là, c'est quand même, vous devez avoir un volume quand même.
Un gros volume. Mais comme j'ai dit, on est peu exposé à la pathologie durant notre curriculum, contrairement à la radiologie. Alors, je pense que c'est en partie le problème. et je pense que, comme historiquement, il y a eu un long moment où... je pense qu'il y a eu comme une image du pathologiste un peu rat de laboratoire antisocial, je pense, ce qui n'est vraiment pas le cas. Donc, je pense que ça n'a pas aidé la spécialité, mais comme dans ma cohorte en médecine, je pense que j'étais la seule, je pense, qui avait appliqué en patho presque. Ça, il y a eu un peu plus d'intérêt après, mais c'est vrai qu'il y a un gros manque puis un gros volume à combler.
Qu'est-ce que vous diriez aux étudiants pour les attirer en pathologie? C'est un message que vous voulez envoyer.
Moi, je dirais que, ben, c'est sûr que il y a la flexibilité de l'horaire qui est bien. Puis, il y a vraiment, je reviens à cette curiosité intellectuelle que, comme le pourquoi, parce que il y a le côté clinique du travail, mais aussi une grosse composante recherche, parce qu'on est les gardiens du tissu, si je peux dire. Alors, beaucoup d'opportunités de recherche au niveau de pathologie. Donc, si c'est quelque chose qui intéresse les étudiants, je pense que la patho serait une bonne idée. Mais je dirais que même si vous n'êtes pas intéressé par la patho, je dirais que ça serait bien de faire un stage en pathologie. Je pense que ça manque dans le curriculum, parce qu'il y a encore à ce jour beaucoup de cliniciens qui n'ont aucune idée qu'est-ce qu'on fait, parce qu'ils pensent qu'on met le tissu dans une machine puis il y a un résultat qui sort à l'autre bout, alors que c'est plus complexe que ça. Je dirais ça, surtout curiosité intellectuelle et flexibilité de l'horaire, c'est les deux choses principales.
Mais c'est vrai que j'aurais... Tu sais, parce qu'on a des rotations à choix, mais tu sais, on essaie de... Si ça, faut faire des choix, tu sais, on ne peut en faire plein. On dirait que ça aurait été bien d'avoir, c'est ça, au moins une petite semaine en pathologie. Parce que c'est vrai que c'est comme un mystère, là. On ne sait pas trop. comme pour de vrai, qu'est-ce qui se passe.
C'est drôle parce qu'on va quand même sûrement, peu importe ce que tu choisis de faire comme résidence, tu vas devoir parler à un pathologiste à un moment donné, tu vas devoir interagir avec. Fait, c'est vrai que ça aurait été bien de savoir qu'est-ce qui se passe au bord du téléphone qui t'appelle. Ou...
Ouais. Ben, ou même si vous avez, vous pouvez pas faire un stage officiel en pathologie, je suggère durant vos stages, même en chirurgie, que moi j'étais toujours là désignée pour que je vais apporter le spécimen en patho puis je vais aller voir en même temps.
Ah, ouais,
alors c'est une bonne opportunité, puis ça reste dans votre future pratique la communication avec le pathologiste parce que comme souvent on sait même pas où ils sont les pathologistes. Tu sais, moi j'essaie de mon mieux de, comme tout le monde a mon numéro de téléphone, je pense, pour le meilleur ou pour le pire. Alors, tout le monde me contacte, puis j'échange souvent avec les dermatologues, surtout, parce que c'est seulement en échangeant l'information, parce que si on m'écrit juste « rash cutané », ça ne me dit pas grand-chose.
Ouais.
Il faut plus d'histoire clinique pour arriver, pour diriger mon investigation, puis arriver à un diagnostic qui aide plus.
Mm.
Mais c'est ça, je dirais, même si vous n'avez pas un stage officiel en patho, passer, aller regarder la lame avec le pathologiste.
Ils
sont gentils.
C'est ça.
Je me demande si vous avez parlé de, en opération, vous donnez la lame, tout ça. Je sais que parfois, pendant des opérations, par exemple, de cancer, ils prennent des spécimens pour voir si les marges ils ont toutes été enlevées.
Bravo.
Est-ce que vous faites ça c'est dans la chaire de chirurgie, genre, ou vous faites ça dans la, comme le spécimen est amené à votre laboratoire de pathologie?
Ben, ça dépend de l'hôpital, mais d'habitude, il y a une salle proche des salles d'op pour les consultations intra-opératoires. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais à part les spécimens qui vont à travers le processus régulier de fixation et de processus de tissu, il y a les consultations intra-opératoires qui sont quand même une grosse composante de ce qu'on fait. Et... comme tu avais dit, les marges ou par exemple, s'il y a un cancer du sein, le chirurgien va prendre un ganglion, le ganglion sentinelle, puis nous demander est-ce qu'il y a du cancer là-dedans. Puis s'il y a du cancer, bien, il va falloir faire un évidement ganglionnaire. Donc, c'est quand même une grosse charge.
Mais pendant ce temps-là, le chirurgien, il attend que vous faites votre travail. Puis là...
Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas traîner. Là. On devrait, en dedans de 10-15 minutes, donner une réponse. Mais c'est ça. C'est une grosse composante aussi.
Donc, est-ce qu'il y a des calls en pathologie pour cette raison-là?
Oui. Ben, pour les consultations intra-opératoires, c'est le jour plutôt.
Mm.
Mais c'est sûr qu'il y a des gardes de soir. Garde. Et on se fait appeler puisqu'il y a des urgences où il faut qu'on se fasse appeler. Mais c'est sûr que ça, c'est un autre avantage. La patho, si vous aimez dormir, c'est oui, on a des gardes, mais c'est sûr qu'on ne se fait pas appeler très souvent.
C'est
mais il faut être disponible.
Ouais, ouais, ouais.
Pour moi, par exemple, en dermatopathologie, il y a comme une réaction cutanée à un médicament qui est comme super aigu et il faut qu'ils aient la réponse directement pour pouvoir commencer le traitement.
C'est pas le genre de choses qui arrive à chaque jour de garde.
Non, vraiment pas.
C'est quand même bon ça. Puis vous avez mentionné la recherche, ce que vous en faites, vous, avec le centre de santé McGill?
Oui, je suis sûre qu'il y a des collègues qui en font plus que moi. Et la recherche peut avoir différentes allures. Ça peut être de la recherche très de base, de médecine de base moléculaire et tout ça, mais ça peut être aussi plus large, une étude plus épidémiologique aussi. Mmh. J'en fais un peu, mais comparé à mes collègues, ils en font beaucoup plus.
Okay.
C'est un autre aspect de la patho, c'est que avec l'avancée de la médecine où on trouve de plus en plus de traitements, puis on trouve les cancers de plus en plus tôt, on essaye d'avoir des thérapies plus ciblées que standard, la même chose pour tout le monde. Donc, étant les gardiens du tissu, on a notre charge, on a notre responsabilité pour tester le tissu, pour voir quelle thérapie va fonctionner le mieux pour le patient. Tester au niveau moléculaire quelle mutation ce cancer a. Comme ça, on peut mieux cibler les thérapies pour le patient.
C'est intéressant.
Je me demandais aussi, c'est un peu... rapport là, avec ce qu'on disait, mais j'avais entendu dire aussi qu'en pathologie, c'est vous parfois qui pouvez faire des autopsies.
Mm-hmm. Oui.
Qu'est-ce qu'il y a ça? Fait que c'est une autre composante. Est-ce que les gens font genre une spécialisation là-dedans après? Ou?
Bien, en tant que pathologiste général, il va toujours en avoir. C'est sûr que dans un centre universitaire, théoriquement, tout le monde peut en faire, mais souvent, c'est quelqu'un qui a plus un intérêt en cardiovasculaire ou quelque chose comme ça qui va faire les autopsies. Mais c'est une composante, c'est sûr, de la pathologie. Mais c'est pas la plus grosse composante. Mm-hmm. Souvent, les gens associent patho à la mort, mais c'est
pas... Je pense que dans ma famille, les gens pensent
ça. C'est ça. Et j'ai eu des conversations intéressantes dans le bus ou dans le métro avec des gens où ils font comme « Hein, toi, tu fais des autopsies? » Oui, mais c'est pas la seule chose que je fais.
Vous en faites? Ou?
Oui, moins maintenant, parce que je me suis plus concentrée en dermatopathe, mais oui, j'en fais.
Okay. Y a-t-il d'autres mythes que vous entendez souvent, tu sais, que les gens vous disent quand vous dites que vous êtes pathologiste, que vous aimeriez ça qu'on défasse aujourd'hui? Là.
Ben, comme j'avais dit, plutôt comme des rats de laboratoire. Et c'est pas comme magique, notre travail. Et des fois, je pense que les gens pensent qu'on est comme devin, puis on regarde la lame, puis on a toutes les réponses, comme t'avais dit plus tôt. Mais c'est vraiment pas le cas. C'est vrai qu'on a beaucoup de réponses sur nos lames, mais je reviens à la communication avec les cliniciens. Je ne peux pas faire mon travail tout seul et ils ne peuvent pas faire leur travail tout seul. C'est vraiment la communication.
Beaucoup de travail d'équipe.
Si, c'est ça. Et si on ne me donne pas grande information sur la requête, parce que ce qui est l'information que je reçois, je ne peux pas en donner trop non plus. Alors, et n'hésitez pas, votre pathologiste, comme il est rejoignable, il va vous parler, ils sont gentils. Appelez votre pathologiste. C'est pas un mystère.
Donc, mettons, c'est ça, vu que vous prenez en compte l'information clinique, mm-hmm. tu sais, vous n'allez pas perdre le reste de la médecine, un peu plus de genre l'histoire, l'examen physique, etc.
C'est sûr que je suis peut-être pas autant rodée que quelqu'un qui est en médecine, mais c'est très important l'aspect clinique parce que ça dirige nos investigations. Puis, par exemple, dans ce que je fais en dermatopathe, il y a comme tellement de rages cutanées. Alors, il faut que je m'enligne. OK, mais c'est quel genre de rage? Est-ce que c'est papulo-squameux? Est-ce que c'est un rage annulaire? Et avec ce qu'on me donne, je peux déterminer c'est quoi le diagnostic différentiel. Sinon, alors,
ça donne plus une petite idée de ce que vous allez peut-être voir.
Exactement. Et comment diriger ma réflexion par rapport à mes observations microscopiques.
Puis, est-ce qu'au jour le jour, vous avez beaucoup de slides donc, qui sont vraiment différentes. Est-ce que c'est redondant ou en général, vous avez beaucoup de cas différents ou même les slides qui sont du même, peut-être deux personnes avec la même maladie ne doivent pas se ressembler nécessairement?
Pas du tout, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'il y a ce qu'on appelle le bread and butter, c'est comme il y a la routine, mais c'est très variable. Okay? Et même je dis aux résidents, des fois ils se disent il y a les cas de routine, j'en ai déjà vu, ça y est, je peux passer à autre chose, mais je leur dis, continue à regarder la routine parce que comme une kératose séborrhéique qui est comme rien, peut avoir l'air vraiment variable. Alors, et elle peut être un peu irritée. Alors, juste le fait d'en regarder comme 300, ils sont toutes un peu différentes. Alors, il faut savoir les reconnaître ou comme un grain de beauté. Tu sais, ça a l'air différent. Il y a plein de variantes de grains de beauté.
Ouais,
et selon l'âge aussi, ça peut avoir des variantes. Alors, même si le diagnostic final est pareil, sous le microscope, ça peut avoir l'air différent. Alors, il y a toujours une surprise.
Puis l'attention au détail, c'est fou.
Oui, ça, c'est mon côté obsessif compulsif.
Puis vous en passez combien dans une journée, mettons? Ou combien de temps vous passez par cas?
C'est variable. Il y a des cas où on la met une minute, on a le diagnostic, ça va. D'autres, comme je disais, les lésions mélanocytaires, est-ce que c'est un mélanome? Non. Ça peut prendre un peu de temps, parce qu'on regarde la première lame, là, on demande des niveaux. On dit on coupe plus dans le tissu, on demande des marqueurs. On peut demander du moléculaire et si le va-et-vient, j'appelle le clinicien. Alors, ça peut prendre quelques jours. Alors, le volume que je fais en dedans d'une journée est variable. Certaines journées, c'est comme « Oh, cas, puis je passe. » Et d'autres, je suis comme « Oh, j'ai juste fait 3 cas. » Mais
c'est des longs cas.
C'est ça, des gros cas complexes. Ou certaines journées où il faut juste demander des niveaux, des marqueurs. Alors, et ça attend. Il faut que j'attende le lendemain pour finaliser le cas. Alors, c'est assez variable.
Est-ce que ça arrive souvent que vous recevez des échantillons qui ne peuvent pas être lus?
Pas souvent, mais ça arrive. Et surtout que ça arrive rarement, mais ça, c'est un truc qu'il faut toujours flaguer, que surtout que les biopsies deviennent de plus en plus petites à cause de nos techniques plus avancées. Des fois, c'est tellement petit que...
C'est bien pour le patient parce que ça fait...
C'est moins invasif, mais c'est ça. Mais des fois, ça reste sur une pince puis ça va pas dans le pot. Alors, des fois, on a des surprises comme « Ah, mais on n'a rien reçu en patho. » Donc, ça arrive des fois. Ou juste des fois des artefacts de la procédure elle-même. Mmh. La plupart du temps, on peut donner une réponse. Okay. C'est quand même rare, les cas où on peut vraiment pas donner une information.
Est-ce que des fois, vous avez un contact avec le patient ou jamais?
jusqu'à maintenant, jamais. C'est vraiment via le clinicien.
Ah ouais, OK.
Ouais.
Est-ce que ça vous manque toujours... un peu?
Oui et non. Des fois, j'ai des cas où je me dis comme... je me demande qu'est-ce qui est arrivé au patient, comme ouais. Des cas plus complexes. Des fois, je demande au clinicien ou je me dis comme, ah, si ça allait vraiment pas, j'aurais reçu un autre petit bout, mais je sais pas. Donc oui, ça me manque un peu, mais je ressens mon impact autrement.
Mm-hmm.
Parce qu'à travers les cliniciens, comme je peux penser à un cas où il y avait une jeune dame qui avait comme des plaques urticariennes de longue date. Puis on essayait plein de traitements, puis j'ai révisé tout son matériel, puis j'ai juste dit à la dermatologue, ben, il me semble qu'il y a plus de neutrophiles que d'éosinophiles, puis elle était comme, je vais essayer cet autre traitement, puis ça a comme fait un gros impact, puis elle m'a dit comme, oh, la patiente, elle comme renaît, puis je le sens quand même, mais c'est moins direct, c'est sûr, moi je suis plus derrière le rideau.
Il y a différentes façons, c'est ça, d'avoir de la reconnaissance dans ce qu'on fait, là, j'imagine. Ouais. Comment le patient qui nous remercie directement, c'est juste comme une façon. Puis là, moi, j'ai une question aussi un peu out there, là, mais c'est comment avoir un membre de notre famille qui fait la même spécialité que nous? Est-ce que vous en parlez beaucoup, mettons, dans
ouais.
De famille?
Oui, on est un peu plate des fois parce qu'on part dans nos conversations. Il y a beaucoup d'avantages. C'est bien et c'est pas bien, disons, parce qu'il y a ce danger de comme ramener le travail à la maison puis toujours en parler. Mais c'est sûr qu'on se comprend entre nous, comme le stress qu'on a, les cas complexes, on peut en discuter. Alors, c'est bien. Mais c'est aussi qu'il y a toujours un comparateur, tu sais, ça. Alors, il faut faire sa place en tant qu'individu aussi, comme professionnel.
Mm-hmm. est-ce que t'es dans le même réseau universitaire que vous?
Oui, en fait, elle est ma voisine.
Ah ouais?
Moi, son bureau est juste à côté du mien. Alors, on se montre toujours des cas.
Ah, c'est drôle.
Est-ce que vous faisiez beaucoup comparer quand vous étiez en résidence, par exemple?
Non, c'est pas vraiment. Super. Ouais. C'est justement, quand je devais choisir ma résidence, puis je vous avais dit que je veux pas être comme ma mère parce que je sentais déjà que j'étais beaucoup comme elle. Plus j'avance dans ma carrière, plus je fais comme... Ah oui, c'est vrai que je suis quand même pas mal comme elle, mais j'ai ma propre identité. J'ai fait mon petit chemin, j'ai fait ma place, puis c'est bon comme ça.
Ouais, on apprend à s'affirmer plus on vieillit, là, je suis jeune.
Exactement.
Ouais, c'est cool.
Puis sinon, c'est quoi, par exemple, l'aspect que vous diriez que vous aimez un peu moins dans votre spécialité, s'il y en a un?
Ben, il y a le côté que je sais pas qu'est-ce qui arrive nécessairement au patient, puis il y a c'est mon petit côté curieux qui fait comme mais qu'est-ce qui est arrivé? Et l'autre aspect, ben je sais pas si ça s'applique juste à la patho, ça doit s'appliquer à toutes les spécialités. Il y a le côté comme administratif, politique un peu de la médecine.
On se fait dire souvent.
C'est ça. Qui est un peu plate, mais je pense on peut pas y échapper. Je pense que c'est important d'en tenir compte et de participer parce qu'on peut pas rester isolé dans notre bureau puis juste faire nos cas. Parce que je pense une partie du fait qu'on est allé en médecine, c'est qu'on voulait aider, puis on peut aider les patients directement, mais on peut aussi aider au niveau systémique, disons. Donc, aller dans des comités, aider au niveau administratif, que ce soit FMOQ ou FMSQ ou comme on veut. Je pense que c'est important pour que le système lui-même change pour promouvoir le bien-être populationnel, disons.
Puis par curiosité, est-ce que vous finalement allez faire des places en région? Donc, est-ce que parfois vous allez travailler quelques semaines ici là en région ou c'est un projet qui est tombé à l'eau?
C'est pas mal tombé à l'eau. Mais là, je me dis, ben, j'ai mon exotisme et mes aventures via mes voyages et pas par mon travail. Ouais. je suis déjà assez comblée avec mon travail.
Ça aurait été plus difficile avec une famille aussi, juste partir, dire, moi, je m'en rends trois semaines là-bas, puis je reviens.
Oui et non, ça dépend des personnalités. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aime son cocon aussi. mais ça serait possible. Disons, mais je suis encore plus ou moins au début de ma carrière en train de comme trouver un équilibre, justement. Alors, j'essaie pas trop de m'aventurer. Mais ça serait une possibilité une fois que je suis plus installée. Pour ça.
Une étape à la fois.
Oui, exactement.
Sinon, un dernier conseil pour ceux qui sont comme à notre stade en ce moment en train d'essayer de choisir leur spécialité?
Je dirais de rester ouvert et rester flexible. Parce qu'on rentre en médecine et en résidence et à tous les niveaux avec comme certaines attentes. Et il ne faut pas être trop rigide. Rester ouvert d'esprit, se faire voir, comme rester, comme surtout au niveau de la résidence, quand on pense qu'on essaye de trouver où est-ce qu'on va travailler, où est-ce qu'on va trouver un poste, aller voir les gens, n'hésitez pas à appeler, vous montrer. Parce que si on ne sait pas que vous existez, ben on ne va peut-être pas vous engager.
Alors, ça va être difficile, ouais.
Mais ça, explorer, comme j'ai dit, même si vous n'avez pas un stage officiellement dans une spécialité, rien n'empêche que vous prenez un congé de 2 jours et que vous allez comme une journée juste pour observer. Ça peut faire un gros changement, comme chez une de nos résidentes qui est au point de finir. Elle était sûre qu'elle voulait faire gynéco, puis elle était rendue presque au point d'appliquer pour sa résidence, puis elle nous a croisés comme dans un kiosque, genre, à la journée des étudiants ou des résidents, puis elle s'est dit comme, ah, ben, je vais venir une semaine, puis ça a comme changé sa vie.
Oh.
Elle n'avait jamais réalisé c'était quoi la pato. Alors,
c'est quand même vraiment
différent. Oui. C'est ça, n'hésitez pas à peut-être sortir du moule, des fois. Poser des questions, communiquer encore.
Ben, merci beaucoup, c'était vraiment une belle discussion. On a vraiment été contents de vous avoir.
Oui, vraiment. Puis pour les auditeurs, n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook, de vous abonner à notre chaîne YouTube, puis parlez-en à vos amis si vous aimez notre podcast.
Merci.